Chères auditrices et chers auditeurs, avant de vous laisser écouter cet épisode, l'équipe Cultura et moi-même tenions à vous informer que la communauté Cultura Créa ferme ses portes fin avril 2024 pour mieux se réinventer plus tard. Nous vous remercions donc très sincèrement pour toutes vos écoutes du podcast, vos retours et votre bienveillance à l'intention des créatifs qui sont passés au micro du podcast. Membres de la communauté et collaboratrices et collaborateurs de Cultura, un grand merci à vous pour cette expertise et cette passion partagée autour du DIY et des beaux-arts. Nous nous sommes régalés. Du côté du podcast, les épisodes restent en ligne, donc vous pouvez continuer d'écouter ou de réécouter les épisodes autant que vous voulez. Je vous invite par exemple à écouter les épisodes autour du macramé, des mangas, de l'argile, des feutres à alcool, de la broderie, du moulage de savon et de bougies, ou encore du tricot. Vous ne devriez donc pas manquer d'inspiration créative pendant les prochains mois. On vous donne évidemment rendez-vous sur cultura.com pour la suite des aventures.
Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cultura Créa. Je m'appelle Mélanie Sena et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler loisirs créatifs et beaux-arts. Deux fois par mois, je partage avec vous des rencontres avec les équipes de Cultura et avec les membres de la communauté Cultura Créa. Que vous soyez débutant ou plus expérimenté, que vous préfériez créer seul ou en famille, nous vous parlons de tous ces arts créatifs que vous aimez. Aujourd'hui, c'est avec Laura Flavini, artisan d'art et créatrice de Milucia, que nous avons rendez-vous. Après une carrière dans la distribution, son quotidien est désormais fait de fleurs en papier, façonnées pour durer et rendre uniques les beaux événements de la vie ou plus simplement le quotidien. Laura nous raconte son parcours, nous parle de la création de son livre, Jardin poétique de papier, et nous explique comment nous aussi faire fleurir de jolies pivoines, anémones et autres délicatesses de la nature avec nos mains. Bonne écoute!
Bonjour Laura, je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode ensemble sur Cultura Créa, bienvenue!
Merci, bonjour Mélanie!
Alors avec toi Laura, on va parler de papier et de travail du papier, et notamment de travail du papier pour faire des fleurs, c'est bien
Tout
ça?
Tout à fait, exactement!
Est-ce que, pour démarrer, tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Laura Flavini, j'ai 34 ans, je suis bordelaise, j'habite à Mérignac, une petite ville à côté de Bordeaux. Je suis la maman d'une petite fleur qui s'appelle Mila, qui a bientôt 8 ans. Et depuis 6 ans, je suis à mon compte et je suis paper floriste.
Très bien, paper florist, ça claque comme nom de
métier.
Ouais,
ça claque. Hein.
Ah, c'est trop bien.
Ce qui peut signifier tout simplement en français fleuriste de fleurs en papier.
Très bien. Comment tu en es arrivée là?
Alors, comment j'en suis arrivée là? Très bonne question. Non, plus simplement, avant d'être à mon compte, j'étais manager dans la grande distribution. Donc, un travail qui demandait beaucoup de responsabilités, beaucoup d'investissements. Et quand je suis devenue maman, c'était un métier qui ne fonctionnait plus du tout avec ma vie familiale que je souhaitais.
Le rythme qui était pas l'idéal.
Le rythme n'était pas du tout le même, même si aujourd'hui, tu vois, avec le recul, être en auto-entreprise, ça demande aussi énormément d'investissements. Mais c'est pas du tout la même chose. Il y a pas la passion qui est là, donc vraiment vraiment différent, sachant que dans mon ancien métier, voilà, je pouvais terminer à 21h du soir, commencer à 6h. Donc très différent. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle qui a été acceptée juste après mon congé parental. Et à l'époque, j'ai commencé en fait, voilà, à faire des petites activités, des petites choses pour m'occuper et puis pour décorer la chambre de ma fille, par exemple. Et je suis tombée par hasard sur un livre d'une autrice qui s'appelle Tiffany Turner, qui est elle aussi paper floriste, une américaine. Et donc, du coup, j'ai découvert la discipline des fleurs en trompe-l'œil, on appelle ça. Et voilà, donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu et j'ai testé pour essayer. Et je crois que j'ai eu un petit coup de foudre. Donc voilà, voilà, tout à fait.
Ok, donc tu as progressivement fait tes petites fleurs pour toi dans ton coin, entre guillemets.
Oui.
Et puis, après, comment tu as commencé à en faire ton activité professionnelle?
Alors en fait, j'ai commencé par poster des photos en fait sur Instagram, en fait sur les réseaux sociaux. J'ai créé une petite boutique. À l'époque, c'était sur le site Big Cartel. Et puis, bah, tout simplement, ça a plu, ça a fonctionné. J'ai eu de plus en plus de demandes. Donc, bah, là, je me suis un petit peu plus professionnalisée. Et, un tout beau site internet est apparu, un compte Instagram.
Okay.
Voilà, c'est vraiment fait au fur et à mesure, on va dire.
Et donc, tu vendais tes créations directement, sous forme
oui,
de
tout
bouquets
à fait.
Ou de un peu de soliflore, des choses comme ça.
Alors, en fait, depuis le début, je propose en fait les fleurs à la tige. Donc, mes clients peuvent acheter soit une fleur d'une variété particulière, soit une deuxième, ou aussi la personnalisation avec avec des bouquets. Et donc, je travaille vraiment pour le particulier depuis 6 ans. Et là, ça va faire bientôt 3 ans que je me suis spécialisée aussi dans le secteur de l'événementiel, notamment pour le mariage, où du coup, des futurs mariés me contactent pour que je puisse les accompagner dans la partie florale, en fait, de leur mariage.
Parce donc, que l'avantage, c'est qu'on garde ce bouquet et cette décoration.
Exactement.
Voilà.
Okay. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les fleurs sont voilà d'un réalisme assez saisissant sur certaines. Et voilà, on est vraiment dans une démarche durable puisque par exemple pour un bouquet de mariée, la mariée peut garder son bouquet pour toute sa vie en fait.
Ouais. Oui, il y a ce côté durable et souvenir qui est très
ouais.
sympa.
Mmh. Il y a le côté durable, vraiment, on est dans une démarche éthique pour essayer vraiment de repenser notre mode de consommation, en fait. Ce que le milieu de la fleuristerie dite classique, on va dire, de fleurs naturelles, malheureusement, elle n'est pas tout le temps dans une démarche durable. Parfois, on n'est pas sur des fleurs de saison. Et malgré tout, ben, quand on fait appel à un fleuriste pour un mariage, ben, ça dure 2-3 jours. Et en fait, 3-4 jours après, on doit tout jeter. Donc, c'est vrai que c'est l'avantage de faire appel à une paper fleuriste ou de façonner ses fleurs en papier. Parce que vraiment, voilà, on est dans une démarche durable et on va pouvoir les admirer le plus longtemps possible.
Donc, des fleurs durables, ça, c'est parfait, effectivement, pour se souvenir en plus d'un événement heureux. Donc, c'est chouette. Et nous, on s'est rencontrés déjà, il y a un petit mois, pile. C'était pour le Salon Créalia à Bordeaux.
Oui.
Et tu étais sur le stand des éditions de Saxe parce que tu as sorti un livre avec les éditions de Saxe.
Tout à fait. On s'est rencontrés sur ce super salon qui était vraiment
hyper sympa.
Une bonne expérience et une première édition au top du top. Donc oui, j'ai sorti un livre en octobre dernier qui s'appelle « Jardin poétique de papier » qui va permettre aux lecteurs d'apprendre à façonner des fleurs durables. Donc on a 15 tutoriels avec plein de variétés différentes qui va de... l'anémone, le cosmos, la pivoine, le dahlia, l'hortensia et beaucoup d'autres. Et avec un premier chapitre qui permet de connaître cette discipline et d'apprendre les gestes de base, en fait, pour débuter dans la confection de fleurs en papier.
Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme papier ?
Alors, le papier que j'utilise, moi, de mon côté, c'est un papier professionnel de la marque Cartotecnica Rossi. Donc, c'est un papier qui est italien, qui répond, en fait, aux normes FSC. Donc, c'est un label, en fait, environnemental qui garantit, en fait, une manière de production responsable. Mmh. En termes de biodiversité et de l'humain dans sa globalité. J'utilise également du papier de la marque Créalia, qu'on peut trouver chez Cultura. Parce qu'en fait, dans les fleurs en papier, on va utiliser différents grammages, allant du 60 grammes au 140 grammes. On va pas avoir la même façon de le travailler, en fait, sur un grammage 60 ou sur un grammage 140. Donc voilà pour le papier.
Très bien. Et parce que je me souviens qu'on avait eu cette conversation sur le stand des éditions de Saxe. Et je t'ai dit, moi, j'utilise aussi du papier d'Adeline Cam, Oui. Qui est une boutique que j'aime beaucoup, et enfin une personne que j'aime beaucoup, donc une boutique à Paris, et elle fait beaucoup de fleurs en papier, et ça fait avec du papier crépon. Et je crois que quand tu dis papier crépon, t'as dû dire c'est un peu.
Moi, je préfère utiliser le mot papier crépé parce que je trouve ça plus joli. Bien. Mais papier crépon, c'est exactement.
Oui, ça fait un peu plus enfantin. Ouais, un peu le truc qu'on a utilisé quand on était enfant, quoi.
Mais c'est ça, tu vois, généralement, quand j'explique mon métier aux personnes qui ne me connaissent pas, quand j'utilise le mot papier crépon, ils ont tout de suite, en fait, cette idée en tête des fleurs, oui, effectivement, qu'on peut fabriquer ou ces guirlandes quand on est en activité manuelle pour enfants, en primaire, en maternelle.
Donc, ça fait moins de coups, quoi, c'est ça?
Voilà, donc je préfère dire que c'est un papier crépon professionnel.
D'accord. Donc le papier crépé, c'est ça alors?
Oui, tout à fait.
D'accord. Et donc, voilà, moi, j'aime bien ce papier crépé aussi parce que donc il y a plein de sortes de couleurs et ça se travaille très bien pour faire des fleurs. C'est ça?
Oui, exactement. Voilà.
Et donc, tu parlais du différent grammage du papier, mais j'imagine qu'il y a aussi différentes textures. C'est pas la même...
Oui. En fait, la texture est équivalente en fait au grammage. Par exemple, un papier 60, 40 ou 90 grammes, on va être vraiment sur une finesse des nervures qui va faire que quand on va étirer le papier, on va atterrir sur un papier qui est très lisse, où les nervures se voient très peu, alors que par exemple sur un papier 140 ou 180 grammes, là les nervures sont bien visibles, mais aussi ce qui va permettre de reproduire certaines variétés de fleurs, où là les nervures d'un pétale peut être plus prononcées. Et on va pas les étirer de la même manière. Par contre, le papier professionnel que j'utilise est vraiment d'une très très bonne qualité. Il est très très résistant. On a beaucoup de diversité en termes de coloris. Oui. Ils sont juste, c'est des coloris qui sont juste sublimes.
Ouais, parce que c'est ça en fait. Là, tu parlais de rendu très réel. Il faut que ce soit la fleur. C'est limite. Tu sais, un peu comme je suis parlé avec l'aquarelle botanique. Où là, t'es vraiment dans le réalisme complet. Ben là, c'est pareil. Les fleurs que tu travailles, c'est vraiment des fleurs telles qu'on va les retrouver dans la nature. C'est ce que tu aimes, toi, reproduire?
Alors, j'essaye, bien évidemment. Oui, j'essaye le plus possible, en fait, qu'elles puissent ressembler à un vrai spécimen. Mmh. Après, j'adapte évidemment mes goûts, la façon que je peux faire pour les reproduire. Mais tu vois, par exemple, sur une anémone, je vais utiliser un papier 60 grammes ou 90 grammes qui va vraiment refléter la transparence, en fait, d'un pétale d'anémone. Alors que, par exemple, pour des variétés de pivoine, je vais plus utiliser un 140 ou un 180 grammes.
Ouais, d'accord. Ok. Tes papiers, tu ne les teins pas?
Je les teins également.
Ah si, d'accord.
Ça va être teint soit avec des matières naturelles. J'aime beaucoup utiliser par exemple le marc de café ou l'argile rose. Ensuite, ça reste du papier, donc en fait on peut le teinter avec tout type de matériaux comme de l'aquarelle, de la gouache, du feutre. J'utilise aussi ce qu'on appelle des pannes pastel. Je ne sais pas si tu connais, c'est en fait un pastel tendre qui est réduit un peu en poudre, mais compact. Donc, on va venir l'appliquer sur le papier avec un pinceau ou un applicateur en mousse. Et ça fait vraiment des nuances plutôt sublimes sur du papier. On peut faire des dégradés, un peu comme avec de l'aquarelle, en fait.
D'accord. Par petites touches ou un petit peu plus quand tu veux adapter la couleur de ton papier?
Ça va dépendre. On peut totalement, on va dire, teindre la totalité du pétale ou par exemple juste les bords ou vraiment où se trouvent les étamines et les pistils. Ça va vraiment donner de la profondeur, en fait, et c'est ce qui va aussi permettre de ressembler à un vrai spécimen.
Ouais. Donc, on parlait du papier pour faire la fleur. De quoi on va avoir besoin d'autre si on veut se lancer dans la confection de fleurs en papier?
Alors, il y a vraiment besoin de très peu de matériaux. Concrètement, c'est du papier, des tiges métalliques, ensuite d'un moyen de collage. Donc, moi, j'utilise le pistolet à colle chaude et de la colle liquide blanche également.
D'accord.
Et une bonne paire de ciseaux.
Et tu utilises tout simplement une marque de colle, parce que souvent il y a un sujet autour de la colle liquide UU là.
Non.
tu passes à, tu sais, le tube vert.
Oui.
A priori, il y a des solvants et tout, c'est pas top.
On va pas utiliser celle-ci. Moi, pour ma part, j'en utilise deux. J'utilise la Takiglou de la marque Eliams. Donc, c'est une marque américaine qui a la spécificité d'être différente d'une colle style un peu déco-patch, tu sais, parce qu'elle va être un peu plus épaisse et en termes de fixation, elle va coller très rapidement. Donc, quand on doit coller beaucoup de pétales autour de notre tige pour façonner une fleur, on a envie que ça colle rapidement, que ça colle bien aussi. Donc, c'est vraiment cette colle que je peux recommander. Ensuite, on a la colle qui s'appelle Papier Kleber de la marque Rayer, celle-ci, qui est vendue aussi chez Cultura, qui est un peu l'équivalence de la Takiglou, qui est super, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et qui a un applicateur qui est beaucoup plus fin. Donc, pour pouvoir positionner de la colle en faible quantité, c'est vraiment super.
Ok. Et tu utilises aussi du fluoratape pour
recouvrir? Pas du tout.
Non,
pas du tout. Je n'apprécie pas.
Ouais, alors c'est un peu spécial, hein, parce que alors moi quand je m'en suis servi, c'était pour recouvrir la tige métallique pour aller jusqu'en près au pétale, et donc c'est vraiment le dernier truc, le dernier truc que tu fais pour bien maintenir tes pétales en haut.
Alors tu pars du calice en fait de la fleur. Normalement, ouais. Et tu descends jusqu'à la tige métallique en bas.
C'est ça.
Mais moi, j'utilise pas ça parce que tout simplement, ça colle.
Ouais, c'est un peu
désagréable en fait. C'est très désagréable au toucher. Et tout simplement, il y a moyen en fait d'avoir un matériau qui ressemble au fluoratape. C'est tout simplement de se découper en fait une bande de papier crépon. De la longueur en fait désirée, de l'épaisseur voilà de 1 cm généralement, qu'on va étirer dans sa totalité. On va venir déposer quelques points de colle et en fait on l'enroule. Donc on est vraiment sur une fleur qui est totalement en papier et on n'est pas obligé d'utiliser un grand nombre de matériaux pour les réaliser concrètement. Vraiment, il faut du papier, une paire de ciseaux, un moyen de collage et des tiges métalliques. Ensuite, c'est du surplus. Pour débuter, vraiment, c'est tout ce qu'il vous faut, en fait.
Bon, et ton livre?
Et mon livre, bien sûr.
Ok. Donc, le principe de création d'une fleur, c'est que tu vas donc au départ préparer tes pétales, tes différentes pétales, ton étamine, pistil, etc. J'étais pas très bonne en SVT, donc étamine, pistil, ça me paraît long à tout ça.
Il y a pas de souci. Alors moi, généralement, je commence par tout ce qui est étamine et pistil.
Alors, ensuite, les deux.
Alors les étamines, c'est ce qui est confondu avec les pistils. Ce sont les petites tiges en fait, les filaments que tu vas retrouver au centre de la fleur.
Ouais.
Donc en fait, une étamine se compose du filet et ensuite tout en haut tu as l'anther.
D'accord.
Ensuite le pistil, généralement c'est vraiment au centre, au cœur de la fleur. Donc par exemple, si tu as la possibilité de regarder une photographie ou une planche botanique d'une pivoine, c'est vraiment ce que tu vas retrouver en son centre, et ensuite les étamines autour de ce pistil. Ensuite on a les pétales, ensuite tu peux avoir les sépales. Les sépales, ce sont les feuilles qu'on va retrouver à la base du calice de la fleur, donc vraiment ce qui est en dessous. Ce qui peut, dans la discipline des fleurs en papier, permettre de recouvrir justement ce calice pour un côté beaucoup plus esthétique et beaucoup plus ressemblant. Mais moi, dans ma façon de faire, généralement, je commence toujours par étamine et pistil. Alors, les téléspectateurs, comment on dit ?
Les auditeurs.
On dit les auditeurs.
Les auditeurs ne verront pas.
Mais tu vois, je te montre ça, en fait. C'est ce qu'on appelle les étamines, avec les anthères au bout. Et là, au milieu, tu as le pistil.
D'accord.
Le pistil. Voilà.
Et là, c'était quoi la fleur que tu nous as montrée ?
Là, c'est des étamines et pistil pour une pivoine.
D'accord. Et après, tu as toutes les...
Après, il y a les pétales à rajouter. D'accord. Tout à fait.
Ok. Mais de toute façon, ceux qui n'ont pas vu, enfin, donc en gros, il y a que moi qui l'ai vu. Mais pour les auditeurs, vous allez sur culturecrea.fr et vous allez voir les créations que tu vas partager avec nous sur la page de l'épisode. Et puis évidemment sur Instagram, mais ça, on en reparlera après.
Avec plaisir.
Donc, pas de fleuratape, que du papier. Les ciseaux. J'imagine oui. que tu prends des ciseaux assez fins, assez petits. Tu prends pas une grosse paire de ciseaux
Alors, j'ai différents modèles, tout simplement. Il y a des, il y a une paire qui va plus me servir pour façonner mes étamines, pour que les filaments soient les plus fins possibles. Ensuite, je vais avoir une paire de ciseaux, on va dire, plus standard, pour tout ce qui est pétales.
D'accord.
Moi, j'utilise la marque Fiskars, qui sont quand même des très, très bons, très, très bons ciseaux.
Et tu n'utilises pas de scalpel ?
Non, pas de scalpel. Je sais qu'il y a différentes paper floristes qui peuvent en utiliser. Mais moi, mes deux paires de ciseaux me conviennent parfaitement.
Oui, et après, tu es de plus en plus agile, j'imagine, à force de,
ouais.
D'être avec, enfin, de couper avec tes ciseaux, quoi.
Oui, tout à fait. Bah, pour tout ce qui est pour tout ce qui est étamine et pistil, si je peux me permettre, on découpe un peu à l'aveuglette, on va dire. Par contre, pour des pétales, parfois j'utilise des gabarits, parfois non. Mes ciseaux, voilà, je les connais maintenant, donc je sais vraiment comment faire les découpes pour avoir l'arrondi, par exemple, que je souhaite. Après, j'aime beaucoup utiliser des gabarits parce que j'aime cette sensation, en fait, du ciseau qui frôle en fait mon gabarit en carton. Voilà, c'est une sensation que j'aime bien. Donc
et donc tout à la main.
Oui, tout à fait, tout est à la main, aucune machine de découpe.
Et comment ça se fait?
C'est tout simplement parce que comme je pars d'un vrai spécimen généralement pour créer mes modèles. Par exemple, une anémone, je vais attendre en fait la saison de floraison. Je vais aller m'en procurer chez mon fleuriste de quartier et en fait, je vais les effeuiller pour vraiment comprendre leur anatomie. Et généralement, du coup, je reporte en fait le gabarit des pétales. Donc voilà, à moins que je prenne contact avec une marque qui va pouvoir me faire des gabarits de découpe. Mais non, je préfère vraiment les faire à la main et de n'utiliser aucune machine de découpe.
Ouais, d'accord. Donc, ça veut dire que tu as une production qui est aussi, comment dire, proportionnelle à ta capacité de travail. Parce que l'avantage de la machine, c'est de pouvoir faire du volume. Donc, toi, aujourd'hui, tu n'es pas sur ce marché-là. Les clients qui t'achètent, ils savent que c'est du fait main. Et là, pour c'est du vrai fait main.
Oui.
Il n'y a pas de machine et c'est vraiment ce qui est passé entre tes mains, quoi, vraiment, que tu as coupé à la main.
C'est vraiment du fait main et on est vraiment sur une démarche de fleur à la commande. C'est-à-dire que je n'ai jamais de stock à l'atelier parce que je pars du principe qu'une fleur qu'on me commande, elle est vraiment pour la personne en fait qui me l'a commandée. C'est-à-dire que je la façonne pour une personne et non je la pioche dans un vase qui pourrait être chez moi à l'atelier. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je trouve que ça a beaucoup plus de sens en fait. Et si je peux préciser aussi, on ne peut pas utiliser en fait une machine de découpe parce que le papier crépon ne s'adapte pas. Mmh. En fait, par exemple, si je me trompe pas. La criquette ne va pas prendre en compte le papier crépon, en fait, il me semble.
Oui, parce qu'en fait, avec la criquette, il faut coller un tout petit peu le papier sur le tapis.
Oui.
Qui, effectivement, qui derrière va être engagé dans la machine, etc. Et donc, oui, il faut fatalement qu'il soit un petit peu collé. Quelque part.
Oui, et puis comme le papier crêpé s'étire, en fait, l'aiguille, je pense que qui permet de découper
la lame,
la lame, voilà. Je pense que ça ne ferait pas des découpes
nettes, ouais. Pas autant nettes. Que tes ciseaux, ouais, c'est certain.
Voilà, tout à fait.
Ok, très bien. Et oui, j'aime bien cette idée de sens parce que moi, un de mes loisirs créatifs préférés, c'est la carterie. Et donc, ouais. Quand je fais des cartes pour une personne, tu vois, vraiment, je suis en train de la faire pour quelqu'un, ben, c'est vrai que ça n'a pas la même... ça rend pas la même sensation, enfin ça m'apporte pas la même chose pour moi qui l'a fait que si tu vois là par exemple il faut que j'envoie une carte d'anniversaire
que si tu la prenais voilà dans un stock que
voilà,
tu pouvais avoir.
Ouais. Voilà. J'en ai déjà fait plusieurs et donc je vais piocher dedans, mais je suis sûre que dans un mois ou même dans deux semaines je ne me souviendrai plus quelle carte je lui ai envoyée. Alors que si je lui avais fait, si voilà, je la faisais en pensant à elle, ben, je me souviendrais sans doute de la carte un peu plus.
C'est totalement différent et les émotions, les sensations sont différentes. Là, cette semaine, je dois travailler sur les fleurs pour le bouquet de mariée de Solène. Et voilà, je sais que quand je vais façonner ces fleurs, je vais penser à elle en fait. Je vais penser au fait que les fleurs bientôt seront dans ses mains, que plus tard ça sera le bouquet, les fleurs qui vont lui rappeler vraiment ce heureux événement qu'elle a partagé avec son mari. Donc c'est vraiment voilà une démarche que j'aime beaucoup.
Ouais, je comprends. Bah c'est ouais.
Ça fait que les délais de production sont un peu plus longs, ouais. C'est sûr. Après c'est précisé sur mon site internet, mais voilà, ça rend la chose plus avec une sensibilité, on va dire.
Oui, et puis une consommation raisonnée aussi.
Tout à fait.
C'est-à-dire que ce bouquet ou cette fleur, on l'aura attendu et chéri.
Mm-hmm.
Très bien. Donc si on revient à notre confection, si on veut se lancer nous aussi dans la confection de fleurs, le papier, la tige métallique.
Oui.
La tige métallique, le papier, la colle, les ciseaux. Tu parlais aussi d'un petit peu de poudre, c'est ça qu'on va pouvoir...
Oui, du panne pastel.
Ah, du panne pastel. Okay.
Que tu peux utiliser voilà sur beaucoup de choses, mais si chez toi avant de t'équiper de panne pastel tu as du pastel encré ou de l'aquarelle ou même de la gouache ou des feutres tout simplement pour représenter par exemple les anthères des étamines, donc ce qui est vraiment tout en haut du filet, c'est très bien, c'est très très bien même pour commencer.
Et le maquillage, ça marcherait?
Tu pourrais aussi utiliser du maquillage, ouais. Ça ferait un petit côté irisé en plus sur certaines fleurs. Donc oui, c'est une excellente idée que je n'ai pas encore testée.
Moi,
je vais le mettre sur ma checklist.
Tu sais, t'as toujours des palettes. Enfin, perso, je me maquille assez peu et puis de moins en moins. Et tu sais, c'est un peu comme tout le monde. Après le confinement, en fait, tu te maquillais plus parce que de toute façon, tu sortais pas de chez toi et tout ça. Et je me maquillais déjà pas c'est beaucoup ça. Avant, mais là, c'est encore pire.
C'est pareil pour moi.
Ouais, donc voilà, ces palettes de maquillage et de fards à paupières et compagnie, là, on peut s'en servir.
C'est une très bonne idée.
Bah, voilà, on va.
Merci Mélanie.
Maquillage. Et tu as déjà créé des fleurs dans un autre matériau? Je pense par exemple, tu vois, à l'argile autodurcissante.
L'argile, non, j'ai jamais testé. Par contre, il y a quelques années, j'ai utilisé le cuir. J'ai fait une collaboration en fait avec une créatrice, Atelier Amande, qui fabrique de la maroquinerie. Et du coup, en fait, on avait créé une petite collection de fleurs en cuir. Et c'était très agréable. Alors, c'était différentes épaisseurs de cuir. On avait fait une anémone dorée et le cuir était d'une douceur vraiment très 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 agréable à toucher, à façonner. C'était très agréable.
Ouais.
Mais pas l'argile encore. C'est pas une discipline
qui t'attire.
Qui m'attire. Ouais. Je suis vraiment amoureuse du papier en fait depuis toute petite. Par contre, voilà, j'ai utilisé différents types de papier, le canson, le de soie, enfin, vraiment beaucoup. Mais non, généralement, je reste sur mon coup de cœur.
Et à contrario, est-ce que tu fais autre chose avec le papier que des fleurs?
Alors, je fais des cartes. Ça m'a fait penser à toi tout à l'heure quand tu as dit ça. Je fais beaucoup de cartes avec ma fille. Ma fille aime énormément découper, faire des superpositions de petits tas de papier, de différentes formes, différentes textures. Donc, on fait des cartes toutes les deux. Voilà, c'est...
Et que vous envoyez...
petit passe-temps.
Ouais.
Oui,
ouais.
Tout à fait. Mais j'en ai une d'ailleurs depuis 2 semaines à envoyer à ses grands-parents. Donc... Il faut que je le fasse.
Bon, c'est trop bien. Non seulement de faire des cartes avec ses enfants. Moi, c'est pareil. Mes filles, elles aiment bien quand on en fait ensemble. Ça nous fait, voilà, un loisir créatif à faire ensemble.
Ouais.
Et en plus, ce plaisir de recevoir du courrier qui est autre qu'une facture ou les impôts.
Exactement.
C'est quand même vachement sympa.
C'est vrai. Bon. Après, j'ai pas forcément d'autres loisirs, on va dire. Parce que déjà... métier me prend beaucoup de temps. Ouais. Et après, ben, j'ai ma petite puce, donc forcément, ça prend aussi beaucoup de temps.
Ah, ça, c'est sûr.
Je me suis mise à la broderie il n'y a pas longtemps, j'apprécie. Donc, on va voir si c'est quelque chose qui tient dans le temps.
Oui, et c'est la broderie de fleurs que tu fais, que tu
brodes. Exactement. Je brode des fleurs et des feuillages.
Oui, mais c'est tellement beau et c'est apaisant aussi, je trouve, de... remplir ta broderie avec des petites fleurs, des petits... Enfin,
c'est très, très apaisant. Mmh. C'est ce que j'aime dans mon métier. C'est un peu une plénitude sensorielle pour moi. Mmh. Je me mets dans ma bulle, en fait, quand je façonne des fleurs et tout le reste autour disparaît. Mmh. Et c'est vrai que je retrouve un peu cette sensation avec la broderie.
Ouais. Voilà, c'est vraiment... Heureusement qu'on a ça dans ce monde de fou.
Oui, c'est vrai. Ça nous permet de nous évader et puis... de transmettre aussi, c'est ce que j'ai voulu faire avec le livre, c'est transmettre un savoir-faire, montrer aux gens que c'est possible en fait, que forcément eux peuvent y arriver aussi avec de bons conseils, tout est possible. Après voilà, c'est un savoir-faire qui évolue avec le temps. On va pas forcément faire les mêmes fleurs au début que 3-4 mois après. Hein. Ouais, moi, quand je regarde mes toutes premières fleurs, fou. Enfin, voilà, quoi. voilà. Elles sont plus jolies aujourd'hui.
Ok, eh ben, génial. Est-ce qu'il y a des créatrices que tu suis, par exemple, sur Instagram, alors soit qui font des fleurs en papier ou d'autres créatrices qui t'inspirent?
Oui, alors, j'évite de regarder les compte sur Instagram parce que ça a tendance à casser justement ma créativité et mon imagination. Donc du coup, je ne m'inspire pas, on va dire, sur les réseaux sociaux. Par contre, je peux vous conseiller deux paper floristes françaises. On est quelques-unes maintenant. Vous avez Atelier Eilan, alors j'espère que je le prononce bien, qui est une paper floriste qui est sur Paris et qui a eu la chance d'ouvrir une boutique. Donc ça, c'est vraiment super parce que vous pouvez voir en vrai ce que peut donner des fleurs en trompe-l'œil. Et vous avez Studio Chamari qui est à Montpellier, qui elle est spécialisée dans la confection de fleurs géantes en fait sur tige qui peuvent mesurer jusqu'à 1m20, 1m60 de hauteur. Et son univers est assez fantastique.
Eh bien, écoute, je vais m'empresser d'aller regarder.
Vas-y, ça vaut le coup d'œil.
Moi, je connais aussi Passage Secret, Isabelle, qui est à Salon de Provence.
D'accord, très bien.
Voilà, dans le sud. Et puis après, il y a l'or de papier, mais qui ne fait pas spécifiquement des feuilles, hein, des fleurs.
Oui,
et
là, je t'ai vraiment cité deux paper floristes qui vont utiliser du papier crêpé.
Floriste.
Mais après, voilà, j'aime beaucoup aussi le travail très minutieux de l'or, de papier. Ça me fascine toujours tous les set designs qu'elle peut réaliser. C'est assez impressionnant. Très coloré, son univers est très coloré. Enfin, ça met la pêche quand je vois une de ses publications, généralement sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça donne du baume au cœur.
Oui, oui. Et puis il y a Fuchsia d'enfer aussi, Amandine, qu'on a reçu il y a quelques épisodes en arrière sur le podcast aussi.
Très bien, j'ai réécouté l'épisode.
et d'ailleurs, qui a fait une création avec un bonhomme géant.
Ouais.
Vraiment, grandeur nature, il est énorme, quoi. Et c'est vraiment impressionnant. C'est... Voilà, c'est fou. C'est dire que c'est...
Il y a beaucoup de disciplines où on peut se dire « waouh ».
Ouais, c'est clair. Donc,
mais c'est ce qui est fantastique, en fait, dans l'art ou dans les loisirs créatifs, c'est qu'il y a énormément de choses à faire, à découvrir, de possibilités.
Et oui, on n'a pas fini de se régaler. Même jusqu'à 80 ans, si on sera avec nos petits papiers, nos petits fils, on sera trop bien.
Et mais ma fille qui a bientôt 8 ans découpe de temps en temps des pétales avec moi. Mmh. Elle adore étirer le papier, sa grande passion. Donc dans sa chambre, elle a sa première petite collection de fleurs et généralement, quand on fait des anniversaires, il faut que je fasse des petits ateliers pour ses copines.
Bah oui,
donc, et puis les enfants, ils adorent ça.
Vraiment. Ouais, ouais.
Puis ça fait les fleurs, ça procure du bonheur, en fait, de la joie. Donc,
ouais. Oui, tout le monde aime les fleurs.
Normalement, tout le monde aime les fleurs.
Eh bien, super. Écoute, merci beaucoup, Laura, pour cette belle découverte ensemble de ton univers fleuri. Donc, ton livre est sorti aux éditions de Saxe. Donc, il y a quelques mois, mais je suis sûre qu'on le trouve encore partout. Puis, de toute façon, on va te demander sur le site des éditions de Saxe ou de Cultura, si besoin.
Tout à fait. Vous pouvez le trouver chez Cultura ou directement sur le site de ma maison d'édition.
Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Laura. À bientôt.
Mais merci à toi surtout, Mélanie. À bientôt.
Me revoici. Pour avoir eu l'occasion de feuilleter le livre de Laura sur le salon Créalia début juin, je vous garantis que vous passerez un beau moment en sa compagnie. Vous pourrez retrouver les jolies fleurs durables de Laura sur culturacrea.fr, sur l'article dédié à cet épisode, et évidemment sur son site web et son compte Instagram. Et si vous voulez partager avec nous vos créations, je vous donne rendez-vous sur le site culturacrea.fr. Si vous n'avez pas encore de compte, je vous invite à en créer un, évidemment c'est gratuit. Vous allez dans la rubrique « Création » et vous cliquez sur « Poster une création ». Vous ajoutez un petit texte et vos photos, et c'est tout, c'est fini. Et vous aurez le plaisir d'avoir des retours sur vos créations de la part des membres de la communauté. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous sur culturacrea.fr, évidemment, sur vos applis de podcast, comme Apple Podcast ou Spotify, sur Instagram également, c'est vous qui choisissez. De mon côté, je vous retrouve mi-août pour la suite de nos aventures créatives, après une petite pause estivale. Je vous souhaite un été très créatif donc, et à bientôt !